pour cette semaine. Merci aussi bien sûr à Agnès Vaudin et Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. Je vous signale et vous rappelle en passant que tous les jours de 9h à 10h et de 16h à 18h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1. Stéphanie Demureux.
Bienvenue dans Europe 1 Soir, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'information et de décryptage. Il est 19h pile sur Europe 1.
Europe 1 Soir Weekend.
19h-21h, Stéphanie Demureux.
Au sommaire ce soir, comment faire en sorte que l'Europe et en l'occurrence la France ne deviennent pas les dindons de la farce dans un contexte où l'ordre mondial opère un changement inédit? Emmanuel Macron montre les muscles sur les dossiers chauds comme le Groenland ou l'Ukraine sans en avoir forcément les moyens. Notre pays est-il condamné à l'impuissance comme pourrait le suggérer la signature du traité du Mercosur hier malgré le nom français? Mon invité à 19h10 sera Hervé Morin, président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense, suivi dans la deuxième heure du général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN pour la transformation, ancien chef-major de l'armée de l'air. Emmanuel Macron qui riposte à la menace américaine de surtaxe des droits de douane par l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Mode d'emploi dans quelques instants dans le journal d'Europe 1. La vie vaut d'être vécue. Voilà le message porté par plusieurs milliers d'opposants à la future loi fin de vie dont l'examen reprendra mardi au Sénat. Ils étaient réunis aujourd'hui à Paris dans le cadre de la marche pour la vie. Europe 1 y était et nous y reviendrons avec nos débatteurs. La tendance météo, Estelle.
Les pluies vont continuer d'arroser le sud demain, notamment la Corse et le Roussillon. Je vous donne plus de détails en fin de journal.
À tout à l'heure.
Europe 1.
Certains l'appellent un bazooka anti-coercition. Emmanuel Macron propose donc d'activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne après les menaces de guerre commerciale brandies par Donald Trump sur le dossier du Groenland. Bonsoir Wilfried de Villers.
Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous.
Alors cet instrument n'a jamais été utilisé par l'Union européenne, ce serait une première. De quoi s'agit-il ?
Cet outil juridique, c'est l'arme la plus agressive dont dispose l'UE en cas de litige commercial, avec des mesures fortes pour répondre à tout pays qui utiliserait des armes commerciales pour faire pression sur l'UE. En clair, s'il est activé, l'instrument anti-coercition permettrait de limiter les importations provenant d'un pays, de geler l'accès aux marchés publics européens, de bloquer aussi certains investissements étrangers. Mise sur pied en 2023, l'utilisation de cette arme juridique a été envisagée une première fois dans le conflit commercial qui opposait à l'époque la Lituanie et la Chine, puis une seconde fois au printemps dernier en 2025 comme une réponse aux droits de douane annoncés par Donald Trump, mais les 27 ne l'avaient finalement pas activé. Un outil agressif, certes, mais pensé avant tout comme un instrument de dissuasion, d'où son mode de fonctionnement. S'il est activé par la France, par exemple, et après un vote des États membres, s'ouvre tout d'abord une phase de médiation pour tenter de convaincre le pays incriminé, dans ce cas les États-Unis, de cesser les mesures contestées, comme les droits de douane. Et c'est uniquement si aucun accord n'est trouvé que l'UE pourrait utiliser les mesures de riposte dont elle dispose.
Et merci Wilfried de Villers pour Europe 1 et face à l'offensive de Donald Trump, on l'aura compris hein, sur cette hausse des droits de douane. La riposte s'organise. Les pays européens menacés par le président américain, en raison donc, Wilfried l'expliquait, de leur refus de les laisser s'emparer du Groenland, eh bien, ils se sont exprimés aujourd'hui dans un communiqué commun. Ils affirment qu'ils feront front et resteront unis dans leur réponse. Maïhélène Trémollet.
Oui, c'est un communiqué ratifié par le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni qui accusent Donald Trump de conduire les relations transatlantiques dans, je cite, un dangereux engrenage. Depuis 24 heures, les échanges se multiplient entre ces pays. Emmanuel Macron en particulier veut se montrer au premier plan de la défense européenne. Une réunion extraordinaire des ambassadeurs s'est ouverte il y a environ 2 heures à Bruxelles pour affiner la riposte, accorder leur violon sur la conduite à tenir face aux locataires de la Maison-Blanche. Et à ce stade, aucune prise de position commune n'a été actée. Mais Emmanuel Macron réclame l'activation, comme vous l'aviez dit, d'un instrument anti-coercition de l'Union européenne. Une arme de dissuasion pour répondre au président américain au risque de déclencher une véritable guerre commerciale. La Norvège, en revanche, pays visé mais pas membre de l'UE, n'envisage pas de contre-mesures pour le moment. Son premier ministre appelle au contraire à, je cite, « éviter une guerre commerciale qui s'emballerait dans une spirale infernale ». De son côté, Friedrich Merz, le chancelier allemand, martèle sans précisions à ce stade que l'Allemagne se tient aux côtés du Danemark et de la population du Groenland.
Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et alors que l'accord du Mercosur signé hier doit être encore voté au Parlement européen, près d'un millier de tracteurs se donnent rendez-vous ce mardi à Strasbourg. Les agriculteurs redoutent l'arrivée, vous le savez, des produits qui ne respecteraient pas les normes françaises. Conséquence, une majorité de paysans restent persuadés que les dés ne sont pas encore jetés. À l'image de Jean-Luc Perrin, éleveur de bovins, président de la FDSEA de la Loire, au micro d'Europe 1 du correspondant Jean-Luc Bougeon.
On va se battre jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde. Et notamment, il y a la saisie de la Cour de justice européenne. Vous savez que les eurodéputés vont voter pour saisir la Cour de justice européenne ou contre. Et c'est pour ça que nous serons à Strasbourg mardi, pour mettre la pression sur les eurodéputés pour qu'ils votent pour saisir la Cour de justice. Ça ne va pas forcément anéantir le Mercosur, ça va l'arrêter pendant 18 mois. Donc on pourra continuer à se battre pour s'opposer à ce Mercosur. Comptez sur nous pour pas qu'on lâche.
Europe 1, 19h05. En bref, un conducteur est actuellement recherché par les forces de l'ordre. Il est soupçonné d'avoir commis un accident de la route dans les nuits de samedi à dimanche à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, sous emprise de protoxyde d'azote. L'individu a pris la fuite après les faits. Et puis au chapitre politique, notez que la ministre de la Culture et candidate de la droite à la mairie de Paris, Rachida Dati, a annoncé aujourd'hui sur France Inter qu'elle quitterait le gouvernement avant les élections municipales des 15 et 22 mars, sans toutefois donner de date précise. On reste dans la capitale avec cet accident rarissime qui s'est produit la nuit dernière. Un appartement s'est effondré dans le 11e arrondissement de Paris, faisant une quinzaine de blessés, dont un grave. Une cinquantaine de personnes étaient réunies lors d'une soirée quand le plancher s'est effondré, Caroline Baudry.
Oui, il est environ minuit, la fête bat son plein au 5e étage de cet immeuble ancien, lorsque le parquet se dérobe soudainement sous les pieds des convives qui se retrouvent dans le fracas un étage plus bas. Une centaine de pompiers, 40 véhicules envahissent alors cette rue à sens unique du 11e arrondissement. Une personne est retrouvée en arrêt cardio-respiratoire, réanimée sur place et transférée en urgence absolue à l'hôpital. 16 blessés y sont également transportés, le reste de l'immeuble évacué. Selon les premières constatations, aujourd'hui l'effondrement n'est pas lié à une fuite de gaz mais à la structure du plancher qui aurait été fragilisée par une infiltration d'eau. Le reste du bâtiment construit en 1800, n'a pas été touché. La préfecture de police précise aujourd'hui que la responsabilité de la solidité des immeubles d'habitation relève des occupants et des propriétaires. La ville de Paris pourrait en revanche exiger travaux ou évacuation à l'issue des investigations. Une enquête de police est ouverte.
Caroline Baudry pour Europe 1. Et cette question, chers auditeurs, avez-vous déjà songé à devenir réserviste? On peut être employé dans le privé, agent de la fonction publique, artisan ou étudiant et porter l'uniforme de la police nationale ou de l'armée, une partie de l'année contre rémunération en fonction des besoins. Illustration à Bordeaux, où vient d'être déployée une patrouille quotidienne armée composée exclusivement de policiers réservistes. Reportage pour Europe 1, Stéphane Place.
Dans cette rame du tramway bordelais, arme à la ceinture, rien ne distingue ces policiers réservistes en uniforme de leurs collègues qui sécurisent les transports en commun toute l'année, tous les jours. Ce n'est pas le cas de cette patrouille Hermès. 4 agents, 2 anciens policiers retraités qui ont rejoint la réserve et 2 autres réservistes qui ont une vie professionnelle par ailleurs qui n'a rien à voir avec ces missions ponctuelles de police. C'est le cas de Michael, 40 ans.
Je suis ingénieur en bâtiment.
Et là aujourd'hui, vous êtes policier.
Je fais à peu près 1 à 2 jours par mois. Donc là, c'est juste une patrouille. Effectivement, il n'y a que des réservistes, mais il y a 2 quand même anciens de la police nationale qui ont de l'expérience. C'est bien qu'il y ait 2 personnes d'anciens d'actifs qui sont là parce qu'effectivement, nous, on n'a pas les mêmes réflexes que des gens d'actifs et qui ont fait ce métier pendant longtemps.
Lutte contre les vols dans les bus et les tramways, contre les incivilités aussi durant 7 heures, la durée d'une vacation. Cette patrouille de policiers réservistes constitue un renfort important, insiste le commissaire Louis Liversin.
On gagne quand même une patrouille supplémentaire sur le réseau, ce qui n'est pas négligeable. On souhaite vivement pouvoir développer ce dispositif parce que les enjeux de sécurité dans les transports en commun sont très importants.
En Gironde, la police nationale peut compter sur près de 400 réservistes. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et tout de suite, la météo.
La météo avec Avenir Rénovation, votre partenaire confiance pour tous vos travaux. avenir-rénovation.fr.
La météo avec vous, ma chère Estelle Lafond. Peu de changements demain dans le sud-est. Estelle, avec toujours une grande vigilance à observer.
Oui, Stéphanie, à l'heure où nous parlons, toujours 5 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Ça ne va pas se calmer, notamment sur la Corse, hein, où la vigilance aura toujours cours jusqu'à la nuit de demain. S'ajoute à cela, sur l'île de Beauté, un fort risque d'avalanche. Côté Roussillon, haut des Pyrénées-Orientales, il pleut aussi pas mal encore demain, avec une limite pluie-neige placée à 1500 mètres et un risque de quelques éclatements orageux sur les côtes, hein, du golfe du Lion. Ailleurs en France, le temps est là par contre beaucoup plus calme. Si on remonte sur les Alpes, ça floconne, hein, des 1100 mètres demain entre le Queyras et le Mercantour. Du reste, la France est disons coupée en deux, hein, une moitié ouest qui reste sous les nuages avec quelques paquets pluvieux sur la Normandie, la Bretagne et vers l'Aquitaine. Et puis moitié est, on reste au sec mais sous un voile très épais. Une sensation de ciel laiteux avec quelques brouillards matinaux sur l'Aube, le Grand Est et autour du Lyonnais. Côté température, on a de retour les gelées nocturnes, hein, présentes sur le nord-est, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 3 degrés cette nuit. Les températures sont fraîches mais légèrement positives des Hauts-de-France au Massif central avec 1 à 4 degrés. Et plus à l'ouest et au sud, on aura entre 4 et 8 degrés demain matin.
Merci Estelle Lafond. Restez avec nous dans quelques instants. Europe 1 soir week-end qui se poursuit. J'accueillerai mes débatteurs de la première heure, Ophélie Rock ce soir et Jules Torres. Mon invité, Hervé Morin, président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense et président des centristes. On a beaucoup de questions à lui poser. Tout d'abord, il veut réagir sur le Mercosur. Il se dit, je pense, extrêmement déçu puisqu'il soutenait les agriculteurs. Et puis, des questions évidemment à lui poser sur ce qui est en train de se passer autour du Groenland, Donald Trump qui menace et les Européens qui tentent de riposter.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, c'est le début, hein. Elle est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non ? Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Chantal Latsou, chef de la brigade d'intervention Akena, que se passe-t-il, monsieur ?
Je voulais m'équiper d'une pergola, et on m'a clairement dit de m'adresser à vous, parce que...
Hop, 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 j'ai compris, vous avez bien fait de m'appeler aujourd'hui, parce qu'après, ça aurait été trop tard. Les vérandas, les pergolas, les carports, c'est maintenant sur akena.com.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas !
Leclerc, bonjour !
Vous me confirmez la promo sur la brioche à Riz ?
Tout à fait, moins 68% sur la deuxième.
Merci ! Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter !
Ouais, ouais.
Faites plaisir à tous les gourmands, car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées à Riz pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Europe 1 Soir Week-end.
19h, 21h, Stéphanie Demureux.
Soyez les bienvenus dans Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes débatteurs de la première heure, Ophélie Rock, professeure et journaliste. Bonsoir Ophélie.
Bonsoir.
Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir,
bonsoir
Jules.
Stéphanie.
Un an de plus.
Un an de plus pour vous aussi.
Oui, ah tout à fait. Mais c'est moi, ça compte pas.
C'est tellement peu élégant. Ouais,
vous êtes radieuse.
Alors, bon, ça c'est un petit peu moins drôle. Le cahier des charges est riche ce soir avec ces dossiers chauds qui nous préoccupent et nous inquiètent parfois et même souvent. Quelle attitude adopter face à l'appétit de Donald Trump au Groenland, notamment avec désormais des menaces de surtaxes douanières sur la France. On voit que l'Europe essaye de riposter, en tout cas essaye de s'organiser. On va en parler avec vous, mon invité Hervé Morin, président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense et président des centristes. Bonsoir Hervé Morin.
Bonsoir.
Hervé Morin, tout d'abord, je voulais vous faire réagir à la signature du traité du Mercosur, parce qu'on vous a souvent entendu en soutien de la colère des agriculteurs. J'imagine que vous n'êtes pas très surpris, mais tout de même déçu ce soir.
Bah, et la messe était dite, hein, donc il n'y a plus de débat sur le sujet. Mmh. On a payé globalement les tergiversations et en vérité le double discours d'Emmanuel Macron qui, quand il était en Argentine, était favorable au Mercosur et quand il était au Salon de l'Agriculture, il était opposé. Et donc, il s'est dit qu'il allait passer à travers les gouttes, qu'il allait finalement faire passer ce traité dont il est au bout du compte favorable, ça j'en suis absolument convaincu, et que ça finirait par passer. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fait, quand vous discutez avec les agriculteurs, de Normandie, le Mercosur, c'est simplement le totem de l'exaspération absolue et totale du traitement qui leur est infligé tous les jours.
C'est un symbole, vous dites.
C'est un symbole, c'est un totem, c'est un symbole, c'est la goutte, c'est le déclencheur, appelez ça comme vous voulez. Et de l'absurdité d'un modèle dans lequel on demande à peu près 15 à 20 heures de papier par semaine et de paperasse par semaine à un paysan, de l'absurdité d'un modèle dans lequel on porte des contraintes chaque jour, en oubliant qu'au bout du compte, une exploitation agricole, c'est d'abord une entreprise qui doit être compétitive, performante, ce qui n'empêche pas d'être attentif aux questions d'environnement. Et puis enfin, de constater l'absurdité d'un système que j'évoquais d'ailleurs chez vos confrères d'à côté, qui est par exemple l'interdiction. Je trouve cet exemple tellement terrible. L'Europe interdit les cages à poules pour les œufs. Vous savez que donc on a vendu nos cages à poules. Et ces cages à poules, vous savez qu'elles ont été vendues dans les pays voisins, c'est-à-dire l'Ukraine et le Maghreb. Et donc vos œufs, que vos œufs, vous les retrouvez. Alors vous les retrouvez pas forcément dans la boîte à œufs du supermarché ou de votre épicerie, mais vous les retrouvez dans tout ce qu'on appelle les ovoproduits, c'est-à-dire tous les produits transformés dans lesquels on utilise des œufs qui viennent
c'est
des autres
pour
pays.
C'est idem pour les poulets. Hein.
Ouais,
les poulets ukrainiens, vous en avez plein les supermarchés et vous ne le savez même pas.
Et la grande distribution est assez malhonnête quand elle dit je ne vais jamais vendre cela, parce qu'en fait, elle les vend à travers la transformation industrielle des produits. Quand vous achetez du blanc de poulet, en effet, en général, il ne vient pas de là. Il n'y a pas de ces pays, mais quand vous achetez un produit transformé, le blanc de poulet ne vient pas de chez nous.
Ophélie Rock.
Ouais, c'était en tant en tout cas que consommatrice, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'essaye tout le temps en fait. Alors, on peut faire attention, c'est vrai, quand on achète un œuf ou qu'on achète un poulet, on peut regarder l'origine. Mais pour tous ces produits en fait transformés, il n'y a pas une manière en fait d'interdire cela. Alors, je sais que la filière pourrait dire que ça va faire une répercussion sur le coût des prix, mais on n'a rien sans rien. Et surtout, est-ce que d'une certaine manière, à long terme, ça ne bénéficierait pas aux paysans français ?
Mais c'est pas l'interdire, c'est permettre simplement de produire. C'est pas pareil. Vous voyez. Quand vous voulez faire un poulailler en Normandie, c'est plusieurs années de procédure. On sait qu'on manque énormément de volailles, puisqu'on consomme de plus en plus de volailles. Le seul sujet, c'est que faire un poulailler aujourd'hui, c'est alors déjà le voisinage, et ensuite les emmerdements administratifs. Donc, des études, des contre-études. Et donc, au bout du compte, vous découragez une bonne partie des volontés. Donc déjà, si on permettait aux gens de produire...
Mais oui, mais alors, rien à voir avec le Mercosur, si j'ose dire. Oui. Il faut tout remettre à plat. Vous les encouragez, ces agriculteurs qui vont aller à Strasbourg mardi. Il faut continuer la lutte et le combat devant le Parlement européen, selon vous, Hervé Morin ?
Il faut le continuer parce qu'il y a quand même des échéances politiques sur ce traité qui semblent encore exister. Donc, je pense que ce combat-là, il faut le mener jusqu'au bout.
Il a intérêt à être suspendu.
Mais il faut le mener, je crois... avec l'idée de l'ambition européenne d'avoir une agriculture performante. C'est ça le combat majeur qu'il faut avoir.
Alors, d'autres dossiers chauds, on le disait en préambule de cette émission, le Groenland, dont Donald Trump ne cache plus et n'a jamais d'ailleurs caché ses velléités de domination. Vous avez suivi que la France avait envoyé 15 soldats ainsi qu'un Finlandais. Alors, il y en a quelques-uns.
Quelques Allemands.
Vous savez quoi ? Ils sont revenus, les Allemands, ce matin. Et oui, je lis le Bild, moi, monsieur Jules Torres.
Moi, je lis Der Spiegel.
Voilà.
Vous parlez allemand comme Bruno Le Maire.
Écoutez, j'ai fait un petit peu allemand, deuxième langue en Alsace. Mais non, c'est passé assez inaperçu, mais ils sont revenus, ces Allemands.
C'est vrai ?
Et oui, tout discrètement. Alors, l'article ne dit pas pourquoi, mais enfin, on se doute qu'ils avaient peut-être pas envie de se prendre une surtaxe de 25% de droits de douane. Ils sont suffisamment battus pour pas en avoir. En tout cas, voilà, ils sont rentrés à la maison, les Allemands. Donc, il reste un Finlandais, un Suédois, une poignée de Suédois, un Hollandais. Et
on dirait plus d'une blague.
Évidemment, les Français, les 15 Français. Comment vous jugez cette stratégie ?
La stratégie européenne ?
notre stratégie à nous, en tout cas, puisque Emmanuel Macron a l'air en pointe toujours sur ces dossiers.
Oui, bah, on connaît le modèle, on connaît le modèle Macron. Le vrai, allez, moi qui suis pourtant, Dieu sait que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Emmanuel Macron. L'idée qu'il appelle à un sursaut européen, oui. Qu'il appelle à la volonté européenne, bien entendu. Qu'il dise très clairement aux Américains, c'est pas acceptable, la mesure anti-coercition, tout ça. Ma seule inquiétude, c'est tout de même l'isolement de la France. On l'a vu sur le Mercosur. C'est-à-dire, le problème, c'est la crédibilité de la France aujourd'hui et du chef de l'État. Et deuxièmement, quand il annonce ça, c'est toujours la question que je me pose, comme c'est un narcissique de première, est-ce qu'il le fait en se disant, allez, j'ai montré mes muscles, ou est-ce qu'au contraire, il l'a fait à travers un échange diplomatique majeur avec les pays européens? S'il l'a fait avec les principaux pays d'Europe en disant, voilà, il faut qu'on ait cette initiative, etc.
Ils ne sont pas tous partis, en tout cas.
Alors, le problème, c'est que quand on commence à voir les réactions, on a le sentiment que c'est plutôt une position qui a été arrêtée seule ou pas tellement partagée et qui va nous amener, bien entendu, à nous retrouver face à des Européens qui, une nouvelle fois, n'ont pas abandonné leur habit de vassaux.
Non, mais il faut faire quoi alors, Hervé Morin? Ça passe par exemple par la défense. Général de Villiers, vous avez peut-être vu dans le JDD ce matin, il s'est déjà exprimé sur ce point. Il faut être prêt à se défendre car seule la force peut garantir la paix. Bon, maintenant, Emmanuel Macron a repris ses phrases en substance. Vous êtes d'accord avec ce postulat, ce diagnostic?
Bien évidemment. Je rappelle que quand Nicolas Sarkozy était président de la République et j'étais ministre de la Défense, nous étions le seul pays européen à avoir augmenté le budget de la Défense quand tout le monde baissait ses budgets.
Vous avez quand même baissé... Il y a eu des saignées budgetaires. Vous êtes passé sous la barre des 2%.
Non.
1,9%.
Je suis allé vérifier. Non. On a réduit nos dépenses de fonctionnement, on a réorganisé, on a concentré les unités militaires et en contrepartie, on a augmenté le budget d'équipement.
Est-ce que vous allez être le juge de paix dans ce studio, c'est vrai que
la discussion qu'on a depuis tout à l'heure sur l'effacement de la France dans le concert des nations, elle ne date pas d'hier, elle ne date même pas d'Emmanuel Macron. C'est depuis une trentaine d'années qu'on a malheureusement tout...
Ça s'est beaucoup accéléré.
Bien sûr, ça s'est complètement accéléré. Mais on a délégué toute notre souveraineté à l'Union européenne. Et c'est aussi pour cela, on parle du Mercosur depuis tout à l'heure. Le Mercosur, il est toujours pas en application. Et notre agriculture française, elle est dans un état lamentable. Et il n'y a pas eu besoin du Mercosur.
Elle est très différenciée.
Oui, mais et donc ce que je veux dire, c'est que la perte de souveraineté, elle se retrouve sur le Mercosur, sur les sujets économiques, sur les sujets migratoires et sécuritaires, et elle se retrouve aussi donc quand Emmanuel Macron est aujourd'hui isolé. Donc c'est bien en effet qu'il fédère, qu'il essaye de fédérer les Européens, mais on n'a pas les mêmes intérêts. Cette Europe à 27, elle ne fonctionne pas. Donc là, c'est vrai qu'on a un Emmanuel Macron qui veut avancer. On a l'impression qu'il avance un peu seul. C'est la même chose qui se passe en Ukraine. Et c'est vrai que pour l'image de la France, on a vu.
Mais en matière
alors
de défense,
alors que faut-il faire, oui, Hervé Morin?
En matière de défense, le schéma, c'est d'abord est-ce qu'il y a vraiment la volonté? Parce que moi, j'ai connu des pays pendant.
Vous voulez dire globalement,
demi,
parce qu'on peut tout reprocher à Emmanuel Macron, mais dès le départ, l'Europe de la défense, c'était sa volonté, alors, ça fait des années.
Est-ce qu'il y a de la volonté? Pendant très longtemps, il n'y en a pas eu. On était très content d'être sous le bouclier américain et d'avoir la sécurité américaine sans faire d'efforts. Deux, à partir de là, il faut bien entendu considérer que ce n'est pas une construction qui s'est faite au sein de l'Union européenne, mais c'est une construction qui se fait entre États, c'est du domaine du gouvernemental, c'est pas Van der Leyen qui gère cette affaire-là. Trois, ça veut dire que on commence à réfléchir d'abord sur un plan stratégique, quelle est notre menace, à quoi on doit être capable de répondre, quels sont les champs dans lesquels on veut intervenir. Trois, à partir de ça, l'analyse de nos faiblesses et de nos forces. Et quatre, un plan d'équipement. Et ça doit se faire entre pays. Le seul accord qui a été fait ces 15 ou 20 dernières années, ça me permettra de revenir sur la période dans laquelle j'étais au gouvernement, c'était le traité de Lancaster, qui était entre le Royaume-Uni et la France, où nous avions eu un vrai accord de défense sur toute une série de sujets, qui était quelque chose d'extrêmement opérationnel. Et c'est ce genre de choses qu'on doit bâtir entre des puissants qui ont envie d'avancer et qui ont la volonté de peser dans les affaires du monde.
Peut-être que les Européens ont été un petit peu surpris, même si on n'est jamais vraiment surpris avec Donald Trump, mais c'est vrai que clairement l'Alliance Atlantique aujourd'hui est en danger. Vous avez entendu Donald Trump, hein, qui n'hésiterait pas entre le Groenland et l'OTAN. Il a choisi, oui. Donc c'est vrai que c'est une menace protéiforme et il faut savoir riposter de la bonne manière.
Nous, on est tiraillés, en fait, avec la question ukrainienne, parce qu'en fait, on veut maintenir les Américains dans un processus de soutien à Zelensky. On le rattrape à chaque fois par la manche. Et donc, en clair, on a l'Ukraine en background, si je puis dire. Et donc, on se dit, bon, il faut que on tienne les Américains pour qu'ils restent avec nous autour de sur la question ukrainienne. Et donc, on fait preuve de faiblesse sur le reste. Mais sur le Groenland, il faut que les Européens tiennent et qu'ils tiennent jusqu'à dire à Trump, si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, on doit considérer que l'Alliance Atlantique, c'est fini. On peut pas
aller jusque-là.
Mais bien sûr, on ne peut pas être allié, c'est-à-dire avoir ce lien du sang, en quelque sorte, en cas de conflit, et se faire piétiner à côté. Le Groenland fait partie de l'Alliance Atlantique. Et les Américains peuvent mettre tous les équipements militaires qu'ils veulent au Groenland. Le Danemark aurait toujours accepté. Le Danemark était un des pays les plus atlantistes qu'on puisse connaître.
Hervé Morin, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui clairement de se passer de l'OTAN et de la protection américaine?
C'est
bien la question.
On revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une volonté, on met ensuite une vraie stratégie, on met les moyens et on fait en sorte que les actes suivent. Je prends juste un exemple. Emmanuel Macron, 2021, nous sommes en économie de guerre. Nous sommes en 2026, il n'y a pas eu un euro de plus d'accordé aux entreprises de défense.
Il ne faut pas avoir de budget.
Oui, mais ça, c'est hier.
Non, mais
ça fait 4 ans qu'on nous explique qu'il faut remonter en puissance. Eh bien, moi, j'ai réuni les 50 et quelques entreprises de défense de la région en leur disant, voilà, la région va être à vos côtés, etc. Dès lors que vous aurez des commandes, avoir des capacités de production, pouvoir former, au bout du compte, c'est zéro. On n'a jamais eu un crédit de plus. Et donc, là, on nous raconte encore des farces. On nous dit 6 milliards de plus à la défense.
Oui.
Bon, on est en fin janvier. Mais 6 milliards ne seront jamais consommés, c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas être consommés. Parce que l'outil productif ne s'est pas...
Il n'y a pas de
commande. Et l'outil productif ne s'est pas renforcé. Si vous voulez mettre des chaînes de production en plus, ça nécessite des mois et des années d'investissement et de formation. Il faut obtenir les accords bancaires. Il faut augmenter les capacités de production à travers des bâtiments nouveaux. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sauf qu'en 4 ans, il ne s'est rien fait de plus pour les entreprises qui sont dans le secteur.
Merci Hervé Morin d'avoir été avec nous, président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense et président...
Ministre de la Défense qui a augmenté les crédits de défense. Je vais vous envoyer les chiffres précisément, vous allez voir.
Je les ai vus, les chiffres, figurez-vous.
Je lui ai demandé sur les chiffres et il m'a dit que...
Vous serez obligé, comme c'était votre anniversaire hier, de nous payer le resto bientôt.
Vin normand, vous m'en aviez parlé.
Il y a un très bon vin à Giverny.
Ouais, voilà, vous m'en aviez parlé là-dedans. Enfin, merci Hervé Morin. On se retrouve avec Jules Torres et Ophélie Roch et on poursuit nos débats dans quelques instants sur Europe 1 avec ces dossiers chauds, le Groenland. Évidemment, comment l'Europe peut riposter et à partir du moment où on n'a pas de budget, en plus, ça va être compliqué.
Oui.
On en parle avec vous, Jules Torres. Excellent article dans le JDD ce matin.
J'ai fait ce que j'ai pu.
Bonjour, c'est Olivier Delagarde. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Parce que la vérité des uns n'est pas forcément celle des autres.
Olivier Delagarde, la revue de presse, du lundi au jeudi à 7h45 et 8h45. Europe 1.
La radio libre.
À l'écoute des entreprises avec HP. La visioconférence fait désormais partie du quotidien des entreprises et pour des échanges plus fluides, HP a lancé une gamme de copilotes plus PC qui sont des PC IA nouvelle génération. Bonjour Julie Conant.
Bonjour.
Vous êtes chef de produit notebook chez HP, alors comment ces PC intelligents améliorent-ils l'expérience utilisateur ?
Eh bien, par exemple, le HP EliteBook X-G1i intègre Polycamera Pro. C'est une technologie HP qui permet de personnaliser vos appels vidéo sur n'importe quelle plateforme de visioconférence.
D'accord.
Vous pouvez, par exemple, afficher votre nom, votre fonction à l'écran lors de vos réunions, comme une carte de visite vidéo.
Et tout ça repose sur l'intelligence artificielle ?
Oui, c'est le NPU, c'est une puce dédiée à l'IA qui gère ses effets en local. Okay. C'est fluide, c'est sans impact sur la batterie du PC qui a plus de 10 heures d'autonomie en navigation web.
Et sûrement très utile pour les entreprises hybrides ?
Oui, et avec la fin du support de Windows 10, passez au copilote puce PC, c'est vraiment le moment idéal.
Et pour plus d'infos ?
Rendez-vous sur hp.com/AIPC.
Merci Julie.
Merci.
Cerise nous dit pourquoi les pros peuvent compter sur Groupama.
Vous n'êtes pas sur le chantier, Arnaud ?
Oula, non Cerise, je viens de raccrocher avec un conseiller pour les sinistres de mon entreprise de plomberie, et là je dois en appeler un autre pour l'assurance scolaire de ma fille.
Ça en fait des appels pour être un bon père et un bon patron.
Ah ouais, je mélange tout. Je vais finir par prendre une assurance scolaire à un de mes employés si ça continue.
Rassurez-vous, Groupama est là. Votre conseiller unique gère vos contrats pro et perso avec une vision globale de votre situation.
Oh, ça va me changer la vie, Cerise.
Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupamapro.fr.
Vous sortez du yoga, vous avez fait le cobra, le chien tête en bas, l'aigle qui pleure, et il fait presque beau. Là, on est détendu. Trop détendu pour aller au supermarché. Alors vous commandez sur Deliveroo vos courses et produits frais, livrés chez vous en quelques minutes. Et namasté.
Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là, on est bien.
Les délais de livraison peuvent varier. Service selon disponibilité géographique et soumise à conditions. Frais applicables, voire sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Renault. Shiva, spécialiste du ménage à domicile, vous souhaite une très bonne année 2026.
Pour bien commencer l'année, Shiva vous offre une semaine de ménage. Oui, une semaine de ménage. Conditions sur shiva.fr.
Shiva, un éclat de magie dans votre vie. Et profitez toujours de l'avance immédiate du crédit d'impôt. Sous réserve de souscription et selon l'article 199 du Code général des impôts.
Europe 1, le journal permanent.
19h30 sur Europe 1, le journal permanent avec vous, Maëlle Laurent. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Stéphanie et bonsoir à tous. Réunion d'urgence aujourd'hui à Bruxelles, réaction aux menaces de nouveaux droits de douane brandis par Donald Trump contre 8 pays dont la France opposée à l'annexion du Groenland. Les Européens qui promettent de rester unis et coordonnés dans leur réponse. Un mort et plusieurs blessés dans un grave accident de la route la nuit dernière à Nanterre, près de Paris. Le conducteur a pris la fuite avant d'être interpellé. Il s'agit d'un jeune sous protoxyde d'azote. On y revient plus en détail dans le journal de 20h. Effondrement la nuit dernière à Paris également d'un appartement sur celui du dessous. Ça s'est passé vers minuit dans un immeuble du 11e arrondissement. Une soirée était en cours dans l'appartement. Elle rassemblait une soixantaine de convives. Une personne est actuellement en urgence absolue, 14 autres en urgence relative. Nouvelle manifestation cet après-midi à Paris en soutien au peuple iranien. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans le 16e arrondissement. Parmi elles, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse ou encore Manuel Valls. Et dans le même temps, cette mise en garde du président iranien à Donald Trump. Une attaque contre Ali Khamenei serait une déclaration de guerre. Le chef de la Maison Blanche avait avancé qu'il était grand temps de chercher un nouveau dirigeant à l'Iran. Étranger toujours, 200 000 foyers actuellement sans électricité en Ukraine. Conséquence de nouvelles frappes russes la nuit dernière. Une jeune femme a été tuée, plusieurs autres blessés dans le nord-est du pays. Et puis un bon élève dans la Champions Cup de rugby, l'Union Bordeaux-Bègles, l'équipe championne d'Europe en titre, qui décroche 20 points sur 20 possibles. Les joueurs de l'UBB ont encore battu les Anglais de Bristol 27-15 cet après-midi, avec 3 essais à la clé signés Louis Bielbéaré.
Merci Maëlle Laurent, restez avec nous, on se retrouvera à 19h45 pour un point sur l'actualité.
Europe 1 Soir Week-end.
19h-21h, Stéphanie Demuru.
Toujours en compagnie de Jules Torres et Ophélie Roch. J'étais en train de vérifier les chiffres de ces budgets de défense. Hervé Morin n'est plus là, donc on ne va pas le contredire, mais je persiste. Voilà, dans mon analyse, il y a bien une baisse de budget. Mais enfin, Hervé Morin reviendra nous donner les détails des chiffres. Jules Torres.
Ça avait fait d'ailleurs polémique dans la présidentielle de 2012, parce que c'était un des axes d'attaque de François Hollande. Et c'est vrai que sous Nicolas Sarkozy,
absolument, de Jean-Yves Le Drian.
Qui a quand même connu la crise des subprimes. Voilà, le budget de la défense a baissé de 38 à 32 milliards, mais on n'était pas tout à fait dans le même monde. Et on a bien vu qu'à partir des années 2010, avec notamment les attentats terroristes et les changements du nouvel ordre mondial, un objectif de défense et un budget de défense plus conséquent était évidemment important et indispensable. Mais ce que dit Hervé Morin est intéressant, parce que Emmanuel Macron, à la fin de son double quinquennat, aura quasiment doublé notre budget de défense. Mais tous les observateurs et les experts s'accordent à dire que si on devait aujourd'hui mener une guerre, on tiendrait quelques jours. On a une très bonne armée, évidemment. Mais on n'a pas une armée qui est capable de mener une guerre de haute intensité pendant plusieurs jours.
En tout cas, on parle de guerre du militaire. Ce dossier groenlandais vire à la guerre commerciale, puisqu'on en parlait aussi avec Hervé Morin. Je vous le rappelle, Donald Trump qui menace de surtaxer jusqu'à 25% de produits d'une série de pays européens, dont évidemment la France, jusqu'à la vente totale du Groenland. Alors aujourd'hui, prend le bas de combat, réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 qui a débuté à Bruxelles en fin d'après-midi. Les pays européens qui menacent de brandir, avec Emmanuel Macron en tête, cet instrument anti-coercition de l'Union européenne. Jules Torres, quel est votre regard sur cette riposte, le bazooka de l'Union européenne, qui n'a jamais été utilisé d'ailleurs, manifestement,
absolument.
Une fois.
Ils ont raison, parce qu'évidemment, il ne faut pas se laisser faire face à Donald Trump. Évidemment qu'on ne peut pas laisser faire tout ça, mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on vaut aujourd'hui face aux États-Unis, face à des droits de douane? Souvenez-vous, Donald Trump, il y a quelques mois, avait menacé les pays européens de droits de douane extrêmement conséquents. Il était parti quasiment de 100% pour finalement tomber à 25%. Et les Européens avaient quasiment applaudi des deux mains. Je me souviens d'une interview de M. Lombard qui vous expliquait, l'ancien ministre de l'économie, qui vous expliquait que finalement 25% de droits de douane, c'était pas si mal. On s'en était plutôt bien sortis. Alors que nos amis du Royaume-Uni, qui eux ne sont pas dans l'Union européenne, avaient mieux négocié que nous. Donc ça montre encore une fois que les Européens essayent, mais c'est évidemment extrêmement dur parce que aujourd'hui les mécanismes de l'Union européenne ne fonctionne plus. On voit bien que les pays n'ont pas les mêmes intérêts, que l'Europe à 6, ça fonctionnait déjà pas très bien. Alors l'Europe à 27, ça fonctionne encore moins bien. Et qu'Emmanuel Macron a raison, c'est un petit peu comme ce qu'il fait en Ukraine avec la coalition des volontaires. Il essaye de se faire en porte-parole de cette coalition-là, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on pèse aujourd'hui? C'est terrible de dire ça, mais qu'est-ce que pèse la France? Qu'est-ce que pèsent les Européens?
À partir du moment où c'était la ligne rouge des Russes, justement, et l'une des raisons pour laquelle cette intervention militaire a été déclenchée, je doute malheureusement que ça soit en effet efficace, Ophélie Roch.
Oui, on a l'impression que d'une certaine manière, il s'appuie sur notre crainte, en effet, de ce qui se passe en Ukraine pour nous dire, si vous voulez pas que je vous lâche. Voilà, c'est un peu comme un bullies, c'est-à-dire ces gens dans la cour de récré qui sont plus forts et qui arrivent finalement à tirer la couverture à eux.
Mais c'est ça, semble-t-il, aujourd'hui.
C'est un petit peu ça, et en fait, il n'y a pas réellement de bonne solution. La seule solution serait tenir, mais c'est à quel prix est-ce qu'on en est capable? Donald Trump est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de morale. Je pense que les États-Unis ne se sont jamais trop embarrassés de morale en général, mais avec lui, les choses sont claires. C'est-à-dire que il est imprévisible. Je crois qu'il y a encore deux mois, quand il avait parlé les premières fois du Groenland, tout le monde ricanait un peu en disant « Non, mais il n'ira jamais jusque-là. »
C'est une promesse de campagne.
Personne ne prenait vraiment
pas forcément
sérieux.
Soutenu aux États-Unis et à commencer par certains, une partie des Républicains.
Oui, absolument, oui.
Parce que, c'est ce qui freinera peut-être, d'ailleurs.
On voit bien actuellement qu'il y a deux lignes dans la Maison-Blanche. Il y a la ligne plutôt J.D. Vance, qui est complètement America First, isolationniste, et qui veut que Donald Trump et son administration se concentrent sur les problèmes des Américains et pas les problèmes du monde. Et vous avez l'autre aile, celle de Marco Rubio, qui n'était pas très connu finalement quand il avait été nommé, avant d'être nommé secrétaire d'État, et qui lui, on voit bien que c'est aussi la succession de Donald Trump qui commence déjà à se préparer, et qui est lui plutôt sur une ligne d'interventionnisme, que ce soit sur la question de Cuba. Il a été l'un des artisans de la capture de Maduro, et il veut aussi intervenir en Iran. Donc on voit très bien que ce sont ces deux ailes qui sont là, mais il y a aussi quelque chose qui va être très important pour Donald Trump, c'est les midterms qui auront lieu en novembre 2026, en novembre prochain. Et c'est vrai que vous avez raison de le dire, l'approbation chez les démocrates, évidemment, est complètement nul. Mais oui, Donald Trump va devoir à un moment donné desserrer la vis sur la question de l'international pour se reconcentrer sur la politique intérieure, parce que c'est certainement pas les Iraniens ou les Ukrainiens qui vont voter pour les midterms.
Quand on est fort sur le plan national, évidemment, on parlait de l'affaiblissement de la France. On rappelle quand même qu'il y a toujours pas de budget. Apparemment, on a beaucoup réfléchi ce week-end, Jules Torres. J'ai appris ça dans votre article ce matin. Il y a eu des choses qui sont sorties de ces réflexions, selon vous. Vous avez des informations?
Pour l'instant, ça bouge pas. Hein. Sébastien Lecornu attend évidemment de voir quelles sont les retombées, comment sont accueillies les mesures qu'il a énoncées vendredi en fin d'après-midi, avec des demandes du Parti Socialiste qui ont été absolument exigées sur la prime d'activité, sur les économies de réduction, notamment sur les APL, sur l'abattement sur les retraités. Bon, tout ça, il y a
c'est Noël, là, pour les socialistes, ça continue. Vous avez entendu Olivier Faure, on avait l'impression que c'était le Premier ministre qui s'exprimait sur le plateau du 20h de TF1, écoutez.
J'ai écouté hier soir le Premier ministre, et ce soir, à mon tour, je lui pose simplement deux conditions. La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. On le sait, quand il y a un flou, c'est que potentiellement, il y a un loup. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre. À ces conditions-là, je proposerai aux socialistes de ne pas censurer le gouvernement.
Je reste fascinée tout au long des mois qui passent, au fur et à mesure du temps, que finalement 75% à la dernière présidentielle, 69 députés à l'Assemblée, et puis ce poids que représentent toujours inexorablement les socialistes. Vous avez entendu François Hollande qui se dit favorable à une stabilité institutionnelle, et il affirme qu'il imaginerait bien le Premier ministre rester à Matignon jusqu'en 2027, à condition qu'il fasse le bon compromis sur le budget. Si c'est pas du chantage, ça, au fil et rope.
C'est sûr que c'est du chantage, mais on est dans un monde où finalement le chantage a l'air de marcher, hein, soit du côté américain ou du côté de la gauche. Finalement, ça prouve peut-être quelque chose, mais ça marche parce qu'en fait, il y a plus rien à sauver d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous voulez ? La gauche a compris que si elle voulait ne serait-ce que survivre jusqu'en 2027, la seule chose qu'elle puisse faire, en effet, c'est de rester en essayant de faire, en fait, le balancier, c'est-à-dire en disant, nous, on te protège, entre guillemets, des deux pôles qui veulent votre mort, mais en revanche, on ne le fait que si tu nous accordes, en effet, quelques grains, quoi. Hein, donc, mais ils ont, enfin, d'un point de vue pragmatique, la gauche a raison de le faire. Si vous regardez uniquement,
marche, on va pas s'arrêter,
voilà.
Hein.
Si vous regardez uniquement leur intérêt, oui, elle a raison. Après, si vous, en effet, on se positionne d'un point de vue moral, est-ce que c'est normal qu'un parti qui est si peu, finalement, soit si peu représenté électoralement et autant d'influence et autant de poids sur la société? Non, la réponse, elle est non.
Et les LR dans tout ça, Gilles Torres.
C'est ce que j'allais vous dire. La gauche a raison. Ils font du chantage, ils sont 70, ils ne représentent rien dans les urnes, et pour le coup, c'est eux qui ont quasiment écrit ce budget, qui est un budget socialiste. C'est eux qui décident et qui contrôlent tout dans ce Parlement et dans ce gouvernement. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir si la droite, à l'Assemblée et au Sénat, va jouer son rôle, parce que la droite ne peut pas tolérer...
Et puis, rester campé sur ses vraies racines, sur ses positions, quand même, parce qu'à un moment...
Il y a 18 députés LR qui ont voté le budget de la sécurité sociale, qui entérinait
bien sûr, c'est pour ça que
la réforme des retraites. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de cohérence dans ce parti.
Ça risque de se payer dans les urnes, quand même.
Ah bon, bien sûr. De toute manière, à chaque élection législative, ils sont toujours un petit peu moins, et a priori, ça ne va pas changer au vu de tout ça. Il y a quand même une cohérence au sein du groupe au Sénat. Le groupe au Sénat ne fait pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que la question du 49-3 ou des ordonnances se pose.
Oui, c'est ce que vous expliquez, d'ailleurs.
Parce que le 49-3, c'est très bien, vous le faites passer. Le problème, c'est que vous faites le 49-3 à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas faire de 49-3 au Sénat. Et si le Sénat réécrit la copie complète, ça peut faire un budget qui
mais
ne soit pas acceptable.
Mais les ordonnances sont compliquées aussi avec le projet de loi
les
finances rectificatives.
Vous prenez le texte originel avec la lettre rectificative. Il y aura la suspension de la réforme des retraites, mais vous contournez complètement le Parlement. Donc ce serait pas... Moi, je dis depuis le début que c'est un moindre mal, parce que déjà, Sébastien Lecornu, je vous rappelle quand même que la première chose qu'il a dite et faite quand il arrive à Matignon, c'est qu'il dit « je n'utiliserai pas le 49-3 ». revenir aujourd'hui en disant bon bah je vais faire passer le budget avec un 49.3, ça paraît quand même mal opportun, mais c'est vrai qu'il va pas avoir le choix que de toute manière de contourner soit ses promesses, soit le Parlement.
Réponse dans combien de temps le jour prochain?
Oui, a priori ce sera demain ou mardi matin, parce que de toute manière il doit prendre une décision avant mardi 15h.
Restez avec nous, chers auditeurs, et Jules Torres, Sophie Liroc, on poursuit nos débats. La loi sur la fin de vie doit arriver devant le Sénat mardi, un volet, je vous le rappelle, portant sur les soins palliatifs et l'autre pudiquement appelé le droit à l'aide à mourir, en gros l'euthanasie. On en parle dans quelques instants avec vous.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, c'est le début, hein. Elle est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160€ par mois avec 5 740€ de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700€, prime maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkéa.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur-mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkéa.fr.
Europe 1, le journal permanent.
19h45 sur Europe 1, le journal permanent avec vous, Maëlle Laurent.
Emmanuel Macron demande l'activation d'un mécanisme de protection contre les États-Unis, instrument jamais utilisé par l'Union européenne. Réaction au nouveau droit de douane voulu par Donald Trump pour 8 pays, dont la France, opposée à l'annexion du Groenland. Une réunion a eu lieu aujourd'hui à Bruxelles sur ce sujet. À Nanterre, près de Paris, l'individu à l'origine d'un grave accident de la route survenu la nuit dernière a été interpellé. Sous protoxyde d'azote, il a violemment percuté 2 véhicules à un feu rouge. Un conducteur est décédé, le second a été grièvement blessé. 2 personnes interpellées à Cannes dans les Alpes-Maritimes après un refus d'obtempérer. Une course-poursuite a eu lieu la nuit dernière avec la BAC sur une 40aine de kilomètres. Les 2 passagers ont ensuite tenté de fuir. Ils se sont jetés dans un fleuve, le Var, avant d'être appréhendés par les policiers. À Paris, à présent, des décisions conséquentes attendues au musée du Louvre. Annonce aujourd'hui de la ministre de la Culture qui évoque la direction de l'établissement. Un mouvement de grève est en cours depuis 1 mois. Les personnels demandent de meilleures conditions de travail. Rachida Dati, également candidate à la mairie de Paris, elle a confirmé aujourd'hui qu'elle quittera le gouvernement avant les municipales. Aucune date n'a cependant été spécifiée. En Iran, à présent, les écoles de Téhéran et d'autres villes fermées depuis 10 jours ont rouvert ce dimanche. Les universités également. Une ONG affirme également que certains services en ligne ont été rétablis dans le pays. Et puis un mot de météo en France. L'Aveyron n'est plus désormais concerné par la vigilance pluie, inondation ou crue. 4 départements restent ce soir en vigilance orange. L'Hérault, l'Aude et les 2 départements Corse. Les Pyrénées-Orientales se rajoutent à cette liste pour la journée de lundi.
Merci Mel Laurent. On se retrouve à 20h pour le point sur l'actualité et votre journal.
Europe 1 Soir Weekend.
19h-21h, Stéphanie Demuru.
La loi sur la fin de vie doit arriver devant le Sénat mardi. Un volet portant sur les soins palliatifs, l'autre pudiquement appelé le droit à mourir, autant dire Voilà, le droit à l'euthanasie. Plusieurs milliers d'opposants ont manifesté aujourd'hui à cette future loi. Ils étaient réunis à Paris dans le cadre de la marche pour la vie. Et puis, vous avez vu dans le JDD cette magnifique tribune très bien écrite par notre écrivain national Michel Houellebecq, notamment Emmanuel Hirsch et Laurent Frémont. Lorsqu'une société organise la mort de ses membres les plus vulnérables, eh bien, elle cesse un peu à peu de croire à la valeur intrinsèque de la vie humaine. Jules Torres.
Oui, il est très beau ce texte, surtout que Michel Houellebecq n'écrit pas souvent, il écrit plutôt des livres, et quand il sort du bois, si je puis dire, c'est évidemment extrêmement profond, et je crois que ce texte est au niveau de la rupture qu'on va connaître et du changement majeur que représente ce texte, qui est une rupture anthropologique majeure qui va complètement changer notre rapport à la mort, qui est écrite d'une manière qui est extrêmement choquante, avec des garde-fous qui ont tous sauté dans les commissions. Donc j'espère que le Sénat va, parce que de toute manière ce texte passera à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, il ne va pas être retiré. C'est l'un des arguments et des textes favoris de Madame Braun-Pivet, donc évidemment que ce texte passera. Il suffit juste de le réécrire pour éviter qu'il y ait des choses extrêmement choquantes et qu'il y ait des dérives, parce que c'est ça qu'il faut craindre dans ce texte.
Oui.
Il y a par exemple le délit d'entrave qui est quelque chose d'extrêmement choquant. Il y a tous les garde-fous, je vous le disais, qui ont sauté. Et c'est vrai que on le voit dans d'autres pays comme le Canada, comme la Belgique, comme les Pays-Bas, eux ont écrit des textes où justement les garde-fous avaient été aussi supprimés, et on voit bien qu'il y a des dérives absolument dingues,
oui, une augmentation incroyable des demandes à mourir
incroyable, et que finalement on bascule dans une société dans laquelle personnellement moi je n'ai pas envie de vivre, et dans une société qui est une société de l'abandon.
Oui, et c'est un sujet extrêmement complexe, mais quand on l'étudie de près, notamment quand on interroge les gens qui travaillent dans les soins palliatifs, on répond à la question autrement, parce que les sondages mettent toujours en avant une majorité de ces Français sont pour l'euthanasie, mais enfin...
ils sont d'abord pour les soins palliatifs.
Eh bien oui, exactement, sauf qu'il y a un département sur deux qui n'en sont pas dotés, et cette tribune, Ophélie Rock, note aussi ce qui frappe enfin dans ce moment historique, c'est le silence éthique.
Non, mais c'est en effet un très beau texte. Moi, après, je suis un peu plus partagée sur le droit, en effet. Alors oui, il faut le dire le mot, c'est le droit à l'euthanasie. Je crois que l'euphémisme est un petit peu... Oui. Au bout d'un moment, on cache un peu beaucoup de choses.
C'est pas un droit, d'ailleurs.
Mais ce qui me gêne un petit peu, en effet, c'est le fait que, autant je suis pour qu'un individu, quel qu'il soit, qui, pour une raison ou une autre, a vraiment, peut-être via un calvaire au quotidien, qui choisissent, en effet, le droit à mourir. Moi, ça ne me choque pas.
Oui.
Mais en revanche, là où le texte m'inquiète, c'est que je trouve en effet que beaucoup de garde-fous, en effet, on est ôtés, enlevés. Mmh. Et surtout, c'est choquant de voir qu'il n'y a pas un volet concomitant qui est fait, en effet, sur les soins palliatifs.
Alors, il y a une loi tout de même sur les soins palliatifs.
Oui, mais elle n'est pas.
Qui est examinée d'ailleurs
qui
en même temps.
Pas au départ,
mais
hein.
Elle n'y est pas.
Non, c'est
mais surtout, en vrai, j'ai le sentiment que les budgets ne sont pas dignes, en fait. Du coup, on n'a pas des
vrais. Et on sait très bien que les moyens ne seront pas à la hauteur. C'est ce que je disais. Un département sur deux en France manque de soins palliatifs.
Un patient sur deux qui aurait besoin des soins palliatifs qui ne peut pas y accéder. Je crois qu'il y a 20 départements qui n'ont pas de service d'unité de soins palliatifs. Donc c'est vrai qu'avant tout cela, il faudrait aller sur le palliatif, parce que c'est quand même une rupture majeure, et on sait très bien, on voit très bien qu'il y a un agenda politique avec cette loi sur l'euthanasie qui est portée par la DMD, qui est pas une association neutre, et qui l'association à mourir pour la dignité, pardon, et qui balaie complètement d'un revers de main cette question des palliatifs. Et c'est vrai que quand on regarde le débat, quand on parle avec les personnes concernées, évidemment qu'on ne dénie pas la douleur d'un patient, et que quelqu'un qui vit un calvaire peut pouvoir disposer de sa mort. Le problème, c'est qu'on ne vit pas du tout dans cette société-là.
Mais
moi, quand je prends mon scooter, je suis obligé de mettre mon casque.
Quand je prends ma voiture,
je suis obligé de mettre ma ceinture de sécurité. J'ai pas le droit de vendre un poumon ou un rein à quelqu'un. Non, on n'est pas dans une société où chacun fait ce qu'on veut. Et c'est justement le principe d'une société avec des repères, avec un cadre extrêmement clair. Et je crois malheureusement que ce texte-là que ce droit à l'euthanasie, oui, vous avez raison, eh bien, va changer complètement et considérablement notre société. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut, le dénoncer, en tout cas dans la version qui est celle rédigée et qui va être évoquée au Sénat.
19h52 sur Europe 1, quelques minutes qui nous restent. Je voudrais vous faire écouter Rima Hassan, jamais en peine d'une déclaration anti-France. Hein. Vendredi, l'eurodéputée était à la Courneuve dans le cadre des élections municipales et elle attaque la France qu'elle présente comme un État raciste.
Dans un État raciste qui relativise son histoire coloniale, voire qui la glorifie, son nom, la couleur de sa peau, c'est politique. Dans un État policier, manifester, s'exprimer, c'est politique. Il n'y a qu'une seule façon de s'affranchir de ces chaînes, élire celles et ceux qui nous ressemblent et qui parlent à vos cœurs plutôt qu'à vos peurs. À ceux qui ont préféré le foot à une marche contre l'islamophobie, Ruffin, si tu nous entends. À ceux qui veulent bien des voix électorales des personnes racisées, à condition qu'ils n'envisagent pas de se présenter. Garrido, si tu nous entends. Ou encore à ceux qui prétendent avoir un cap clair en défendant un État génocidaire. Glucksmann, si tu nous entends. La seule gauche qui nous représente, c'est la gauche de rupture. Celle qui ne plie ni sur l'antiracisme, ni sur l'anticolonialisme.
Bon. En tout cas, faut pas compter sur elle pour rassembler la gauche. On a bien compris. Mais enfin, je précise quand même que Rima Hassan a été accueillie par la France, avec sa famille, la France qui lui a accordé sa naturalisation en 2010. Hein, donc une France raciste, je trouve que c'est quand même
une France raciste. Et elle dit la phrase "Libérez-vous de ces chaînes". Mais de quelle chaîne elle parle? En effet, vous avez raison de le dire. On l'a accueillie. Elle a bénéficié de la scolarité française, qu'elle a ensuite été, parce qu'il faut le rappeler, Madame Hassan est une députée européenne, elle donc représente les Français, elle a été élue par des Français. S'en prendre toujours à l'État est quand même quelque chose d'absolument sidérant, mais de toute manière, cette dame n'a jamais pris position pour la France. Elle est députée française au Parlement européen, mais elle défend toujours des intérêts qui sont contraires à ceux de la France.
99% de ses déclarations, c'est à chaque fois sur la Palestine.
Bien sûr, 99% de ses déclarations sont sur la Palestine et sur la situation à Gaza. De temps en temps, elle se permet un petit pas de côté pour défendre le régime mafieux de M. Tebboune en Algérie, mais c'est vrai que jamais, vous l'avez jamais entendu, sur le Mercosur, elle n'en a rien à faire sur l'agriculture.
Moi, je
ne l'ai jamais entendu parler. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve quand même qu'il y a un vide abyssal dans ce discours-là. On ne l'a pas entendu en intégralité, mais nous, au JDD, on avait un reporter, Lucas Planaverne, qui est allé. Et c'est vrai que le discours était absolument dingue. Et j'avais regardé une interview de Rima Hassan sur Thinkerview, vous savez, cette chaîne YouTube qui fait des longs formats. Et en fait, le problème, c'est que sur un long format comme ça, on ne peut pas tricher. Et Sky lui demandait, c'est l'intervieweur lui demandait, par exemple, sur le nucléaire, la fermeture de Fessenheim, vous en pensez quoi?
Ah, je sais pas. Mais je crois qu'elle savait pas ce que c'était.
Donc à un moment donné, c'est absolument sidérant ce niveau d'élu.
Ophélie Rock, on précise alors qu'à la Courneuve, je crois 72% d'abstention lors des dernières élections. Donc elle va chercher sur ce terrain-là aussi.
Ouais, mais c'est même plus qu'elle va chercher sur un terrain en particulier. Je pense en effet, elle a abdiqué avant même d'avoir commencé le fait de vouloir représenter de toute façon tous les Français. On le voit, c'est pas du tout. Elle a pas du tout envie de représenter tous les Français. Je pense qu'elle a dans sa tête en effet une construction mentale qui est finalement assez resserrée, parce que quand elle dit que la France glorifie la colonisation, je ne sais pas où elle a vu ça. En tout cas, elle n'a pas appris à l'école ça. Parce que
les questions de pouvoir d'achat, ça, c'est pas son sujet non plus. Je voulais vous faire réagir justement, puisqu'il nous reste 2 minutes. À partir d'aujourd'hui, figurez-vous que 24%, un Français sur 4 est à découvert. Vous avez vu cette étude sur lesfourrés.com. 42% des 25-34 ans, vous êtes tombé dedans, non, Jules Torres, vous êtes à découvert tous les mois. Soit une augmentation de 7 points en un an.
Non, moi, le budget est tenu.
Non.
mais
vous travaillez beaucoup.
C'est une réalité qui est absolument dingue. Et c'est vrai qu'on demande beaucoup trop d'efforts aux Français. Il y a une fiscalité qui est extrêmement pesante. Et on vous répète, le gouvernement vous répète depuis des années qu'il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat. Mais les Français, quand ils entendent ça, mais ils se marrent évidemment qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. Il y a une inflation qui, cette année, n'est pas grandiose, mais qui, les dernières années, a été quand même très élevés. Et en même temps, bon, bah, les salaires n'augmentent pas. Le coût de la vie est de plus en plus cher. Le coût de l'électricité est de plus en plus cher. Quand vous allez maintenant dans les hypermarchés ou les supermarchés, le caddie vaut quasiment le double de ce que ça coûtait il y a 10 ans. Donc évidemment, c'est terrible. Et on a l'impression que le gouvernement ne fait pas grand-chose pour endiguer tout cela.
Vous les fréquentez, vous, ces jeunes, puisque vous êtes professeur de français. Bon, ils sont un peu plus vieux, ils ont 25 ans, en effet. Mais bon, c'est aussi ces abonnements. Je lisais là dans l'article, vous savez, les abonnements un petit peu obligatoires aujourd'hui. Et ça favorise les découvertes.
Là où c'est intéressant, c'est que les jeunes, de toute façon, ont bien conscience d'une chose. Ils vivront moins bien que leurs parents. Ça, c'est quelque chose où... Dans la génération, en tout cas, des années 90, on avait le sentiment qu'on allait quand même pouvoir faire mieux que nos parents. On se disait, bon, si on s'y donne, on y arrivera. Là, les jeunes, ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas, en fait, à dépasser ce que faisaient leurs parents. Et surtout, il y en a beaucoup qui voient déjà que leurs parents, en fait, galèrent. Et moi, je pense qu'ils galèrent d'autant plus que finalement, beaucoup d'enfants ont des parents parfois qui sont mono, enfin voilà, des familles monoparentales. Et je pense que quand vous êtes une femme ou un homme seul et que vous devez éduquer un ou plusieurs enfants, c'est là où le budget commence à se creuser sévèrement.
Merci Ophélie Rock, merci à Jules Torres. Allez vous reposer après cette soirée d'anniversaire manifestement longue. N'oubliez pas que si on en parlait sur Europe 1, c'est avec la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont, accompagnée de Romain Desarbres. Ensemble, ils libèrent la parole en soumettant les grandes questions d'actualité à une analyse psychologique. Et justement, demain, on en parlait il y a quelques instants avec nos débatteurs, l'euthanasie. Et si on en parlait sur Europe 1 avec Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres, c'est du lundi au vendredi, de 15h à 16h et chaque samedi pour les entretiens les plus marquants de la semaine. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie d'Europe 1 Soir Week-end.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Il ne suffit pas d'avoir une opinion, il faut pouvoir la donner.
Pierre de Villeneuve, Europe 1 Soir. Du lundi au jeudi, de 19h à 21h. Europe 1.
La radio libre. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, Groupama est là. Si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, mais merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Je vois du soleil, madame là-dessous.